Vendredi 13 mars 2020, il est 18h au micro Diallo Mariama Kenda, c'est l'heure du journal en français. Bienvenue à tous. Messieurs, dames, bonsoir et voici nos titres. Niamey se mobilise pour faire barrage au coronavirus. Hier, le gouverneur a réuni le comité régional de surveillance et de gestion des épidémies. Les précisions tout de suite dans ce journal. Le vélo désormais moyen de déplacement privilégié des habitants de Beldeyarra, région de Tillabéri. Il remplace les motos interdites depuis le 13 janvier 2020 par le gouvernement nigérien pour des raisons sécuritaires dans cette zone. Les tests réglementaires et législatifs qui préviennent et luttent contre l'esclavage moderne des enfants au Niger. Nous en parlons ce soir dans la partie magazine de cette édition. Je l'annonçais tout à l'heure, la région de Niamey se mobilise pour faire barrage au coronavirus. Hier, le gouverneur a réuni le comité régional de surveillance et de gestion des épidémies. Selon Issaka Hassan Karanta, ce comité créé en 2000 sera chargé d'informer et de sensibiliser les populations sur le coronavirus. Issaka Hassan Karanta.
Nous avons réuni la directrice régionale de la santé publique et tout son staff, ainsi que les médecins des différents districts et les directeurs régionaux de Niamey pour justement réactualiser le comité régional de gestion des épidémies de Niamey. Et nous avons attiré l'attention des gens pour les sensibiliser, pour les informer sur la conduite à tenir. Bien qu'aucun cas ne nous a été signalé, il y a des dispositions élémentaires d'hygiène à observer. Les plus exposés dans ce cas d'espèce sont les cadres de santé. Et bien sûr, comme préalable, un renforcement de capacité a été fait à l'endroit de ce personnel sanitaire quant à la conduite à tenir par rapport au traitement de ce virus, par rapport à la prise en charge de ceux qui éventuellement seraient soupçonnés d'héberger le virus jusqu'à ce qu'il y ait des examens complémentaires qui confirment ou qui infirment la maladie.
Dans sa note du 12 mars 2020, le ministre nigérien de la Jeunesse et des Sports a demandé au président du Comité olympique et sportif national du Niger de surseoir à toute participation aux compétitions sportives internationales, et ce à cause de la propagation grandissante de l'épidémie du coronavirus à travers le monde et des mesures préventives prises par le gouvernement pour y faire face. Toutefois, en ce qui concerne les rencontres internationales officielles, le gouvernement étudiera au cas par cas l'opportunité d'y participer ou d'en accueillir, précise la note. Une attaque a été perpétrée hier vers 13h contre une position des forces de défense de sécurité nigérienne par des hommes armés à Ayourou, commune frontalière avec le Mali dans la région de Tillabéri. Selon RFI, 9 soldats nigériens ont été tués. Les assaillants ont été ensuite neutralisés, a indiqué à l'AFP, une source sécuritaire, rapporte la Radio France Internationale. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités nigériennes. La bicyclette, communément appelée vélo, est désormais le principal moyen de déplacement des habitants de Beldeyarra, région de Tillabéri. Une alternative à l'interdiction des motos décrétée par le gouvernement nigérien pour des raisons sécuritaires dans cette zone depuis le 13 janvier 2020. Reportage avec Sidi Abdou, notre correspondant à Beldeyarra.
Depuis le 13 janvier 2020 que la mesure d'interdiction de circuler avec les motos dans le département de Beldeyarra a été instaurée, nombreux sont ceux qui utilisent les bicyclettes communément appelées vélos pour leur déplacement. Les fonctionnaires de l'État, les agents des projets, artisans et même certains militaires font leur va-et-vient avec le même mode de déplacement. Un travailleur que nous avons rencontré et qui a demandé l'anonymat nous explique.
Je fais tous mes déplacements à vélo. La distance entre chez moi et mon lieu de travail fait 15 km. Je pars travailler chaque matin et l'après-midi, je fais les 15 km de retour. Celui qui veut vaquer à ses occupations ne doit pas compter sur les motos et les véhicules. S'il a les moyens, qu'il s'achète un vélo au lieu d'importuner quelqu'un. Et avec ça, Dieu merci, je me sens même en forme.
Ainsi, depuis l'instauration de cette mesure d'interdiction, les réparateurs de vélos constatent un changement sur leur activité relativement à leurs conditions de vie. Écoutons le témoignage d'un réparateur de vélo.
C'est vrai, il y a eu un moment où il n'y avait pas d'affiliance. Mais depuis l'interdiction de la circulation des motos, chaque jour, l'on peut gagner quelque chose.
L'agent de l'État que nous avons rencontré appelle les uns et les autres à utiliser le vélo pour leurs déplacements. Car, dit-il, cette pratique contribue aussi à l'amélioration de l'organisme humain.
Les fake news et leurs conséquences néfastes, tout un chacun doit procéder à une vérification avant de consommer toute information, a déclaré le journaliste nigérien Djibril Seydou, qui a encore ajouté « Toute personne mise en cause dans une histoire de fake news peut porter plainte ou faire un démenti face à la gravité de l'information. » Il est au micro de Nafissa Damousirfo.
Généralement, les fake news circulent beaucoup plus rapidement que les vraies informations. Et aujourd'hui, avec le développement de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ces fake news ont trouvé un terreau assez favorable. Il faut que chaque citoyen d'abord se donne les moyens de faire ce qu'on appelle le fact-checking. Vérifier l'information. Si vous utilisez Internet, vous pouvez vérifier avec un certain nombre d'outils, de moteurs de recherche. Vous pouvez également faire une vérification classique. Par exemple, si vous apprenez que M. X est mis en cause dans telle information, vous pouvez vous-même vous référer à cette personne ou même à certains de ses proches. Il y a des faits qui sont totalement gravissimes que vous ne pouvez pas ne pas réagir. Et les citoyens ont plusieurs voies de recours. Ça peut souvent s'assimiler à de la diffamation. Donc vous pouvez soit rester en justice, comme vous pouvez et faire un démenti.
Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, Reporters sans frontières apporte son soutien au journaliste béninois incarcéré depuis le 24 décembre 2019 pour 18 mois. Selon RSF, Ignace Sossou est condamné pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique sur la base d'une loi béninoise qui n'est pas le texte officiel qui régit l'activité des médias. Pour rappel, le journaliste avait relayé sur les réseaux sociaux certains propos du procureur de la République béninoise près du tribunal de Cotonou qui s'était exprimé le 18 décembre 2019 lors d'un atelier. Jamais un journaliste ayant relayé sur les réseaux sociaux des propos qui ont bien été tenus en public ne s'était retrouvé derrière les barreaux dans l'espace CDAO, relève RSF. Les femmes n'ont toujours pas une bonne visibilité dans la participation politique au Niger, malgré la nouvelle loi sur le quota qui leur donne plus de place dans les institutions. C'est pourquoi ONU Femmes Niger, qui déplore la situation, appuie les autorités pour mener des séances de sensibilisation à l'endroit de ces femmes pour leur meilleure implication dans la politique. Madame Moukaïla Adama, consultante en participation politique et autonomisation des femmes à ONU Femmes Niger, explique au micro de Nafissa Damousirfo.
Vous savez, au Niger, et c'est pas seulement au Niger, les femmes n'ont pas une bonne visibilité au niveau de la participation politique. Il y a des efforts qui ont été faits, certes, notamment la nouvelle loi sur le quota a été adoptée à l'Assemblée, qui fait passer le quota nominatif de 25 à 30% et le taux quota électif de 15 à 25%. C'est vraiment une bonne chose pour les femmes, surtout que les élections approchent. Elles doivent saisir cette occasion, être au devant de la scène. Donc c'est dans ce cadre-là que nous appuyons le ministère de la Promotion de la Femme à sensibiliser les femmes afin qu'elles se fassent enrôler, parce que tant qu'elles ne sont pas enrôlées, elles ne peuvent pas se présenter comme candidates. Donc, le premier pas, c'est se faire enrôler. Et deuxièmement, il faut qu'elles présentent leur candidature massivement parce que seules les femmes savent ce qu'elles veulent. Ce n'est pas les hommes qui vont leur donner leur place. C'est elles qui doivent lutter pour trouver cette place-là.
Enlisement politique dans certains pays africains. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande au président des deux Guinées, Conakry et Bissau, de respecter le choix de leur peuple. Boukari Sani Zili, vice-président du Parlement de la CEDEAO, au micro d'Asmana China.
Les temps sont révolus. De vouloir être éternel au perchoir, En ce qui concerne la Guinée-Conakry, il sait que la communauté, le Parlement, sait que ça ne passera pas. Avec tout le respect que j'ai pour le vieil Alpha Condé, nous lui demandons de se rappeler de tous les combats qu'il a menés et de respecter le peuple guinéen et de respecter la communauté. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, avant que ça ne soit étalé, le Parlement, nous nous sommes rendus plusieurs fois en Guinée-Bissau. Lorsqu'on est bon démocrate, il faut savoir perdre. Il faut savoir s'incliner devant le choix du peuple. Et la vie continue.
Le Niger se conforme à l'Union africaine sur le régime de l'état civil. À Agadez, la semaine dernière, les cadres régionaux et départementaux du secteur se sont réunis afin de s'approprier de la nouvelle loi sur la réforme de l'état civil et son décret d'application. Entre autres innovations, l'individu a désormais 60 jours au lieu de 15 pour déclarer un événement. Ider Adamou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il est au micro de Moussa Maman.
Nous venons juste d'adopter une nouvelle loi qui consacre la réforme de l'état civil et son décret d'application. Il y a eu plusieurs innovations et nous avons voulu aussi que nos cadres adoptent un comportement qui nous permette d'être à la hauteur et d'amener notre état civil d'être dans la compétition au niveau de l'Union africaine. Donc c'est pourquoi cette rencontre est faite d'abord pour sensibiliser tous les cadres régionaux et départementaux de l'état civil qu'ils s'approprient cette nouvelle loi qui s'inscrit pour être à la hauteur et relever les défis. Je donne un exemple. Dans le temps, c'est 15 jours seulement qu'il faut pour déclarer. Et maintenant, c'est ramené à 60 jours. Les gens qui naissent dans les brousses, arriver au niveau d'un centre, 15 jours, c'est peu. Et pour les gens qui sont à l'étranger, 60 jours. Ça permet, même si vous êtes à l'étranger, si vous avez un père aussi au Niger, vous pouvez aussi venir vous déclarer.
La partie magazine de ce journal à présent, l'esclavage moderne des enfants est une réalité au Niger malgré l'existence d'un arsenal juridique et législatif des plus garnis. Quels sont justement les textes réglementaires et législatifs qui préviennent et luttent contre l'esclavage moderne des enfants au Niger? Réponse dans ce magazine signé Alassane Kouzi Mahamadou qui s'est entretenu avec Mahamadou Moussa, coordinateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten.
Le Niger, en plus de son arsenal juridique national, est partie prenante de nombreuses conventions internationales dont l'application stricte pourrait prévenir et lutter contre les formes modernes de l'esclavage des enfants. Mahamadou Moussa, coordinateur de l'Association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten, nous en dit plus.
Le Niger a adopté la convention 182 sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et aussi la convention sur les droits des enfants. Deux différentes et principales conventions sur les droits des enfants. Le Niger a adopté aussi certaines lois et règlements, comme d'abord la Constitution, en ce qu'elle consacre le droit de la personne humaine, consacre également le droit de l'enfant. Vous avez également, pour ce qui concerne la partie travail, le Code du travail du Niger. Il énumère un certain nombre d'éléments de protection de l'enfant. La Convention collective interprofessionnelle, c'est vrai, elle fait les détails en matière de travail, mais elle précise aussi dans quelles conditions on ne peut pas mettre un enfant au travail. Le Niger a accepté que l'enfant de moins de 14 ans ne soit pas sur le champ du travail. Mais après 14 ans aussi, même si l'enfant doit travailler, c'est réglementé. Le Niger a adopté certaines lois, la loi sur l'esclavage, qui prend en compte cette dimension de l'exploitation des enfants. Et le Niger a adopté, en janvier 2018, le plan d'action national contre le travail des enfants. C'est déjà une marche, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses à faire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la difficulté de l'application des textes qui existent?
Non, il n'y a pas de difficulté d'application. Mais la Convention sur les droits des enfants, quelle difficulté vous allez avoir de donner aux enfants leurs droits, de les amener à l'école, de faire en sorte que toutes les classes soient là, avec les enseignants, faire en sorte que tous les enfants soient à l'école, qu'il y ait un dispositif social qui permettrait de suivre les enfants chez eux, pour savoir qu'ils ne sont pas violentés, ils ne sont pas brimandés, permettez-moi ce terme, ils ne sont pas pris dans un système où on peut remettre en question leur développement normal, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan physique.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de poursuivre ou de sanctionner quelqu'un qui exploite un enfant économiquement?
Le code pénal est là, avec tous les outils qui permettent, lorsqu'il y a des situations de violation des droits des enfants. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, le code est plus rigoureux dans la prise en charge des délits des grandes personnes sur les enfants, que ce soit des délits d'exploitation sexuelle, d'exploitation économique, d'exploitation... Même du point de vue moral, les juges ont des instruments dans leur possession.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.